France Culture.
Ça parle de pays, des personnes loin de chez nous et l'amour qu'on porte aux personnes qu'on aime malgré les distances. Ya hilalum dawam batrahum, ya hilalum dawam batrahum, ihna bardo fi dhikrahum, ya hilalum diyarum wain. يا حيل الناس ومناسنا ناس ومناسنا وذكرياتهم دي مفرصنا ذكرياتهم شالوا نمنا وشالوا نعاسنا شالوا نمنا وشالوا نعاسنا شالوا انفاسنا ونسوا ناسنا وانا اريد ديارهم وين لا 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 لا, 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 لا
Nouvelle diaspora de France, premier épisode, Soudanais, l'exil impossible, un documentaire de Raphaël Kraft et Jean-Philippe Navarre.
Quand je suis arrivé en France, je crois qu'il n'y avait pas 300 Soudanais dans tout le pays. Après, il y avait les étudiants. Parfois, quand on entend parler arabe soudanais, on va vers la personne, on dit « Ah bonjour, comment tu t'appelles? D'où tu viens ?» etc. Maintenant, il y a beaucoup de Soudanais à Paris. C'est-à-dire cette guerre, ce conflit politique au Soudan a dispersé les Soudanais un peu partout.
J'aimerais que vous vous présentiez à San Moussa.
Il y a une époque où on disait « Je suis peintre » ou « Je suis graveur », »,« Je suis calligraphe ». Et après, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe.
Vous êtes né en 1951. À quoi ressemble votre pays dans votre jeunesse et votre adolescence?
Je me souviens, j'étais dans une petite ville de l'ouest du Soudan, mais c'est une ville commerçante. Après, elle a perdu son statut parce qu'à côté, la ville d'Al-Obeid a récupéré le train. La ligne de train passait par Al-Obeid. Donc mes parents ont quitté la ville de Nout vers Al-Obeid. C'était une époque où les Anglais... C'est-à-dire, moi, j'ai un vague souvenir d'inspecteur britannique qui était sur son cheval avec son chapeau, et habillé en short et des chaussettes qui montaient comme ça et qui circulaient. Les gens le regardaient avec beaucoup de respect, quoi. Mais je n'ai pas de souvenir d'une présence coloniale britannique ou autre. C'est-à-dire que, pour moi, je vivais dans une petite communauté de commerçants. La vie était tranquille, quoi. Il n'y avait pas de guerre à l'époque, il n'y avait pas de grands conflits politiques. Et après, bon, au moment de l'indépendance, on a eu quelques années de régime civil, quoi. Bien sûr, les militaires sont arrivés en 58, mais c'était un pays tranquille. Tout fonctionnait. On allait à l'école, on ne payait pas à l'école. 30 ans après, pour aller à l'école, il faut payer les livres, les cahiers, les crayons et tout ça, quoi. Et ça donne une idée du niveau de la dégradation dans la vie des Soudanais, quoi. Tout ça, c'est disparu.
C'est un pays méconnu en France. C'est pourtant un pays qui a connu les conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a une diaspora dans le monde parmi les plus importantes. En Égypte, en Libye, en Europe, aux États-Unis, en Australie, dans les pays du Golfe, évidemment. Qu'est-ce que c'est le Soudan ?
C'est un pays qui a connu de très très grandes transformations, qui est devenu deux Soudans, ce qui est assez inédit. C'était le pays le plus vaste d'Afrique, qui est à la charnière du monde arabe et du monde africain, et qui, du coup, peine à avoir une visibilité, peut-être, du fait de ses multiples identités et appartenances. La question du Nord et du Sud va se constituer et un mois avant la déclaration d'indépendance en 56, le Sud se révolte et ça va donner lieu à un des conflits civils les plus longs de l'histoire africaine. Il y a énormément de déplacements internes, ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le conflit actuel. C'est-à-dire il y a des déplacements massifs à l'étranger, mais aussi des déplacements en interne d'une ampleur rarement égalée. Je m'appelle Alice Franck, je suis maîtresse de conférence en géographie à Paris 1 et je travaille sur le Soudan depuis les années 2000.
La vie sociale des Soudanais s'est dégradée progressivement, jusqu'à ce qu'il y a, quelques jours, quelqu'un m'envoie une image d'une femme dans la rue. Au Soudan, il y a des femmes qui vendent du thé. Et cette femme, elle vendait en fait des perfusions. Et c'est parce que quand on va à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a plus de pharmacie qui fonctionne. C'est la guerre maintenant, à Khartoum. Mais les gens se débrouillent comme ça. Et on se rend compte que finalement, la guerre qui autrefois était un peu dans les marges, il y avait la guerre dans le sud du Soudan, il y avait un grand frère qui était militaire, qui nous racontait des histoires de la guerre, mais c'était très loin, ça ne touche pas. Quand la guerre est arrivée dans la capitale, les gens ont compris que quand il y a une guerre, on n'a pas accès à l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, tout est chamboulé, rien ne fonctionne. Ça, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire que les gens quittent l'endroit où il y a la guerre pour aller dans une autre ville à 100 km. Mais au bout de quelques semaines, ils sont obligés de quitter cette ville-là parce que la violence arrive dans leur ville. Il y a des gens qui quittent leur coin trois fois et après on finit en Égypte ou en Éthiopie ou au Tchad. Et après au Soudan du Sud, un peu partout, quoi. Et c'est une expérience terrible. C'est-à-dire que en 78, j'ai quitté le Soudan. Parce que la situation politique est devenue un peu difficile à supporter. Et je voyais mes copains qui se faisaient arrêter ou qui perdaient leur boulot pour des raisons politiques. En plus, moi, je travaillais comme graphiste dans Khartoum University Press, mais j'ai travaillé aussi comme journaliste dans un grand journal quotidien. Je faisais des débats, je publiais des choses, des poèmes, des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir une réputation de quelqu'un qui est un peu dans l'opposition, proche du Parti communiste. Et ça m'a un peu gêné. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon travail comme ça du jour au lendemain. J'ai pas envie de me retrouver en détention pour une histoire de poésie ou de comme ça. J'ai autre chose à faire de mon temps, quoi.
Alors cette population, elle se rend en Égypte, dans les pays du Golfe, en Libye, dans le pays colonisateur, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie, et marginalement en France dans les années 70, 80, 90, pour devenir plus importante à partir de 2011, les révolutions dites arabo-musulmanes.
Oui, il y a vraiment une bascule pour la France, hein, c'est-à-dire une mise en visibilité des Soudanais qui jusque-là étaient d'abord les Soudanais en France de la vieille génération, des gens qui s'étaient dirigés vers la France par opportunité, c'est-à-dire une rencontre, un travail, un conjoint, la fuite effectivement du régime d'Omar el-Béchir, le président du Soudan pendant plus de 30 ans, hein, du régime islamiste qui est tombé avec la révolution, mais la communauté soudanaise en France était extrêmement réduite et effectivement les gens se dirigeaient plutôt vers là où il y a des réseaux plus importants de Soudanais, donc l'Angleterre et puis les pays du Golfe, même si les pays du Golfe ce sont des migrations de travail avec moins d'affichage politique de réfugiés politiques.
Agda, j'ai 29 ans, je suis soudanaise et j'ai vécu en Arabie Saoudite. Je fais partie de ce qu'on appelle certificat arabe, shahada arabia. Ça veut dire les enfants des familles qui ont vécu dans le pays du Golfe. Je suis née en Arabie Saoudite, mais en Arabie Saoudite, on vit en communauté, je précise. Donc, même mes copines à l'école, elles étaient soudanaises. On est vraiment en catégorie sociale au Soudan, on est très connu, le certificat arabe. Et on est discriminés, je peux dire ça. On se moque de nous souvent, ils disent on n'est pas assez soudanais. Alors que la plupart du temps, j'ai l'impression qu'on est plus soudanais que ceux qui sont nés au Soudan, qui ont fait leurs études là-bas.
Pourquoi ?
Parce qu'on idéalise notre pays. Pendant les vacances, on est à Khartoum, parce qu'on a une maison là-bas. Toute la famille était à Khartoum, même les oncles, les tantes, etc. Mes grands-parents. Toute l'année, je suis en Arabie Saoudite. En tant que fille ou femme, vous pouvez imaginer la situation. Aller au Soudan, pour moi, c'était la liberté. C'est une liberté superficielle. Hein. C'est liberté pour moi en tant que fille. C'est très positif, c'est très beau. Malgré les coupures d'électricité, malgré la situation en général qui n'est pas agréable, mais pour moi, c'était des moments attendus de m'habiller comme je voulais, avec des couleurs. Il y a aussi s'inscrire dans des cours de français, des cours de musique. J'avais cette opportunité à Khartoum, donc j'ai de très très beaux souvenirs jusqu'à 2019. Après, je précise, c'est la situation pour les femmes au Soudan. Ça fait pas rêver pour les femmes, mais pour moi, voilà. La chanson qu'on va entendre s'appelle « Beledan Hilina », « Mon pays à moi ». C'est une chanson nostalgique qui parle de la paix. Elle a été écrite en 2007 par Tariq Al-Amin et a été reprise par Nasser Haddad.
تصدح تستريح تبابا والقطر الجبال يمشي ويشق الغابة قلب علمبو يفتح للقلوب أبوابا والنكار ديكم كيكي وريبابا بلد النيلنا دموع دموعنا أساها أساينا.
J'ai décidé de quitter le Soudan. Au début, je pensais aller à Londres, en Angleterre, comme tout le monde. Mais ça coûtait très cher, ce truc-là. J'ai essayé d'aller aux États-Unis. J'ai demandé une bourse d'études, c'était compliqué. Et j'ai commencé des cours d'allemand à Goethe Institute, parce qu'il y avait des gens qui me disaient, si tu fais le cours d'allemand, tu réussis tes cours, les Allemands, ils peuvent te donner une bourse d'études en allemand. J'ai commencé mes cours. À un moment donné, je me suis dit, ça va pas, quoi. J'avais des copains qui étaient à Paris. Ils m'ont dit, écoute, tu viens.
Je suis Hind, je m'appelle Hind Al-Tahir, nom marital Sifourné. Je suis maman de 3 enfants. J'ai plusieurs casquettes. Je suis chanteuse d'abord, et puis je suis interprète libérale de la langue française à la langue arabe et vice-versa. Et je suis aussi animatrice socio-éducative à la Croix-Rouge française. Je suis arrivée en France, c'était fin 99, début 2000, et je suis arrivée en tant que boursière grâce à mes études de français. Mais c'était vraiment tout un parcours pour y arriver.
Vous quittez un pays dirigé par Omar el-Béchir. Vous aviez des problèmes?
Je pense comme toutes les femmes, on rencontre que des problèmes. Les islamistes qui imposaient leurs lois, on était frappés dans la rue parce qu'on n'est pas habillés jusqu'à... Alors on m'a sorti une fois l'os du diable en français. L'os du diable, je sais c'est où dans mon corps, donc c'est la cheville. Parce que je n'étais pas habillée jusqu'à ma cheville, donc voilà. Peut-être que c'est l'amour de la langue française, en vrai dire, qui m'a sauvé la vie, qui a changé mon destin. Toute ma famille était pour le parti Oumma à l'époque, qui était un parti démocratique et qui était contre les islamistes. Tous les membres de ce parti rencontraient des problèmes. J'avais aussi des problèmes.
Je m'appelle Abdelaziz Baraka Sakin. Je suis soudanais et écrivain. Aujourd'hui, je vis en France. Je me présente comme réfugié pensionnaire. Je suis venu très souvent en Europe. Et je suis devenu réfugié en 2012 en Autriche. J'ai vécu là-bas 12 années et désormais, je suis à nouveau réfugié en France. C'est donc ça, je suis réfugié pensionnaire.
Vous êtes né en 1963, vous vous qualifiez de plus vieux réfugié soudanais de France. Nous, on en a rencontré un plus vieux que vous qui s'appelle Hassan Moussa.
Mais non, lui, il a la nationalité française, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis toujours un réfugié, et je le resterai jusqu'à mon retour chez moi. C'est donc moi le plus vieux réfugié de France.
À quoi ressemblait le Soudan dans votre jeunesse?
I can go back to my dreams.
Pour ça, whenever me suffit de revenir à mes rêves. Sudan, à chaque fois que je rêve du Soudan, je ne rêve que de l'endroit qui m'a vu grandir, mon village, des maisons toutes simples, des arbres, des gens très naïfs, ma jeune amoureuse. Vous savez, j'aime mon pays. Et vous savez, il n'existe aucun endroit au monde tel que mon village.
En 2009, vous publiez un livre qui s'appelle Django, qui vous amène en prison. Et en 2012, vous publiez un autre livre qui s'appelle Le Messie du Darfour, où là, qui vous contraint à l'exil.
Ils ont saisi mon livre. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que oui, j'étais un bon écrivain, mais que j'utilisais de très mauvais mots. Après ça, en 2010, ils m'ont récompensé du plus grand prix littéraire, le prix Taïd Salih. Et 9 jours plus tard, ils ont interdit le livre. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont donné la même réponse. C'est alors que j'ai été poursuivi par des agents du régime. Et là, ils ont banni tous mes livres. Ils m'ont interdit d'écrire de nouveaux livres et ils m'ont tout interdit. Et là, un jeune type des services de sécurité m'a dit, Baraka, un beau jour, ils vont te tuer, va-t'en. J'ai eu peur de mourir pour rien, je ne suis pas un héros. Je me suis donc enfui en Égypte. Et quand un de mes livres a été publié en Autriche, ils m'ont invité à Vienne. Et je suis donc allé à Vienne. J'ai fait mes lectures là-bas. Je me suis dit qu'il faudrait que je passe quelques années en Autriche, le temps que les frères musulmans s'en aillent et que je puisse rentrer chez moi.
Il y a aussi toute une vieille génération qui s'est établie en France, pas forcément en obtenant le statut de réfugié. Il faut dire que les politiques migratoires n'étaient pas tout à fait les mêmes.
Alice Franck.
Et puis, une nouvelle génération, un point de bascule à compter des années 2010 et puis jusqu'en 2015, où en 2015, les Soudanais deviennent la première nationalité demandeur d'asile en France, devant les Syriens. Tout d'un coup, Paris, et c'était l'époque des campements, à Stalingrad, à Calais, aussi, on réalise qu'il y a des Soudanais, des Éthiopiens, mais des Soudanais en très grand nombre qui déposent leur demande d'asile en France. Cette nouvelle génération, elle est pour beaucoup liée à la faillite de la Libye.
Je rappelle l'intervention française en Libye qui a pour conséquence la scission de la Libye en deux, la disparition de l'État et une population immigrée en Libye traditionnellement depuis les années 60 qui fuit parce que les conditions de vie sont terribles.
Le conflit du Darfour, qui dure depuis 2003, même s'il y a eu ce pic en 2003, va conduire de nombreuses personnes à partir, avec des gens du Darfour qui sont très habitués à franchir la frontière libyenne pour y trouver du travail, à faire des allers-retours, et qui, du coup, vont fuir en Libye et qui, au bout de quelques temps, ne peuvent ni revenir en arrière, puisque au Soudan, la situation aussi se dégrade avec la séparation du Soudan. Et puis la poursuite d'une guerre au Darfour avec des gens qui pensent à poursuivre la route et quitter la Libye.
Donc la voie méditerranéenne est ouverte, c'est-à-dire par le Sahara, à partir de la Libye, par la Méditerranée. Il y a les Sud-Soudanais, parce que là en 2011, il y a l'indépendance du Sud-Soudan. Et il n'y en a pas beaucoup des Sud-Soudanais en France, mais il y en avait des vagues également en 2015, en plus des Darfouris.
Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens disent. Et donc, je m'occupe de réfugiés qui demandent l'asile politique et qui ont besoin de ça pour survivre. Sinon, ils meurent. Voilà.
Alors, si je suis venu vous voir, Marie-Josée Tubiana, c'est parce que vous êtes la spécialiste française, sinon mondiale, du Darfour et du Tchad.
Je suis allée au Darfour en 56 et dans toute cette région que je connais bien. Et ce que les gens disent, c'est ça qui est intéressant. Et je me suis occupée d'eux depuis que je suis à la retraite. Et je le fais gratuitement, bien entendu. C'est des années de terrain qui me permettent de ne parler que des choses que je connais. Je n'invente rien.
Alors je suis venue avec Camille Poncin, qui a fait un film sur vous qui s'appelle La Combattante. Pourquoi La Combattante?
Il a trouvé que ça me caractérisait.
Le Darfour, à partir du début des années 2000, commence à être attaqué.
Les massacres ont commencé bien avant. La répression a été dès que les gens ont réclamé un peu une autonomie et un peu de liberté. Et il y a eu des massacres continuels. Et si les gens sont partis du Darfour, souvent séparément, c'est parce qu'ils avaient besoin de survivre. Et moi, j'ai travaillé avec des survivants.
On n'entendait pratiquement rien de cette région de Darfour et de la guerre, et les massacres, les crimes de guerre qui se passaient. Et on avait, donc dans les grandes villes du Nord, quelques déplacés. On entendait quelques histoires. Et moi, j'ai le souvenir... Et ça, quand je dis, j'ai pas honte de le dire, je pensais qu'ils exagéraient un petit peu. Parce qu'ils parlaient de quelque chose que nous, on n'a jamais entendu parler. Et vraiment, moi, c'est ici, en France, que j'ai appris, mais vraiment, tout ce qui se passe au Darfour, les crimes, les vraies histoires, en fait, je l'ai apprise ici, en France. Et j'ai honte de que j'apprenne ça ici, mais j'ai pas honte de le dire, parce que vraiment... Il n'y avait pas de témoignages, enfin, il n'y avait pas de médias qui parlaient de Khartoum ou de Medeni, des souffrances de nos compatriotes soudanais à l'ouest du Soudan.
Ces personnes arrivent en Europe, en particulier en France, c'est ce qui nous intéresse. Ils vont à l'Office français pour les réfugiés et les apatrides pour tenter d'obtenir l'asile politique. Ils racontent leur histoire et un certain nombre d'entre eux se voient recalés parce que les officiers de l'OFPRA considèrent que cette histoire n'est pas assez précise, par exemple.
Ils sont ignorants. Tu dis que tu viens de tel village, ils disent c'est pas sur les cartes, donc ça n'existe pas. Mais c'est pas sur les cartes parce que le village a été détruit. Je dis allez chercher dans les cartes anciennes et vous le trouverez.
Des centaines de personnes sont venues dans ce salon, se sont installées autour de cette table pour vous raconter leur histoire et, avec vos connaissances, vous les avez aidées à apporter des précisions, joindre à leur dossier des vieilles cartes d'état-major anglaises du début du siècle.
Bon, en puisant dans mes propres archives, qui sont là.
Là, le livre que je feuillette, c'est un livre qui a été fait par Marie-Josée aussi, où elle a établi des cartes du Darfour et des cartes en fonction des mouvements des troupeaux, en fonction des saisons. Et sur ces cartes, dont elle a fait elle-même le relevé sur place, elle a aussi identifié de nombreux villages. Des villages qui ont été complètement rasés par les jeunes Jaouides, vidés de leurs habitants puis brûlés. Et donc ces villages qui ont été rasés, certains des jeunes qui venaient la voir ici en étaient issus. Et quand ils expliquaient à l'OFPRA, l'OFPRA leur disait « Mais non, ce n'est pas vrai, ce village n'existe pas, vous inventez. » Et donc grâce aux cartes et aux relevés fait par Marie-Josée, elle était capable de leur prouver que ce village avait bien existé, mais juste qu'il avait été rayé de la carte. Je suis Camille Poncin, le réalisateur du film La Combattante.
Et donc ces personnes peuvent faire appel à la Cour nationale du droit d'asile, et c'est là que Marie-Josée intervenait.
Pour que leur cas soit réétudié à la CNDA. Voilà, et c'est à ce moment-là que Marie-Josée, avec l'aide d'un avocat, recontextualise leur histoire, ramène des précisions pour qu'ils comprennent que leur récit est véridique, qu'ils viennent bien de telle région, qu'ils ont bien été victimes de telles attaques, qu'ils ont bien fui selon telle route, qu'ils sont bien arrivés en Libye, et elle les aide à mieux raconter leur histoire.
Tous ceux qui sont fuis de chez eux, ça n'est pas le désir d'avoir une vie meilleure, c'est le désir d'avoir une vie tout court.
كابينا مبيت انا شوقي ليكي حزين
عشان مزومة بسافر الاتنين عشان مزومة بسافر الاتنين
d'amour de la région du Darfour, écrite par Ibrahim Aboubakar Saad à la fin des années 80.
Alors, je m'appelle Lucie Rivilla. Je suis chargée de recherche au CNRS et attachée au laboratoire LIMAF, l'Institut des mondes africains.
Donc, on n'est pas dans la banlieue de Khartoum que vous avez étudiée. On est dans peut-être la petite Khartoum à Paris.
Alors moi, j'ai une perspective un peu différente. Je ne reprendrai pas ça, le petit Khartoum, le Little Sudan, parce qu'il y a une forme de label où, on verrait le quartier de la Chapelle à travers juste les Soudanais, alors qu'en fait, il y a plein d'origines migratoires différentes.
On passe devant précisément une épicerie érythréenne.
Voilà, il y a les Somalis aussi de plus en plus.
Les Afghans,
les gens du Sri Lanka. Mais c'est vrai que depuis les années 2015-2016... Il y a une communauté qui s'est soudanaise, qui s'est structurée à la Chapelle.
Et si je suis soudanais et que j'habite en banlieue parisienne, c'est ici que je viens faire mes courses quand même.
On vient faire ses courses, on vient boire un café, on vient discuter, débattre. Il y a des cercles de discussion qui débattent d'un livre, d'une idée. Voilà, il y a plein de choses qui se passent à la Chapelle. Il y a des cours de français aussi beaucoup, notamment à la bibliothèque Vaclav Havel. Il y a une institution très importante pour la communauté soudanaise ici.
À l'époque, 78, en France, les études universitaires n'étaient pas payantes.
Hassan Moussa.
Et il me dit, écoute, tu viens, tu t'es inscrit dans un cours de langue, tu vas t'inscrire à l'université et après tu te débrouilles. Et j'ai bricolé un peu à gauche, à droite et tout. J'étais à Paris 3 mois et après je suis allé à Lille. Je suis resté un an et demi à Lille. Après, avec Patricia, on s'est mariés. Patricia était présente déjà au Soudan avant que je vienne en France.
Patricia, votre épouse qui est à côté de
vous. Voilà, oui.
Sur Lille, vous écrivez « Diaspora, moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un destin si biblique ? Si diaspora il y a dans mon existence, ce serait ce que j'ai vécu avant de quitter mon Soudan natal lorsque j'ai atterri en France, terre promise où mon exil africain s'est achevé. La légende dit que les gens de la diaspora doivent voir un signe qui leur indique la fin de l'errance. Mon signe à moi, ce fut le papier. Je l'ai compris un jour où je me suis trouvé dans une grande papeterie lilloise. J'y ai découvert une dizaine de variantes de papier aquarelle. J'ai retiré les belles feuilles, je les ai examinées, palpées, senties. Et j'ai même eu l'envie d'en mâcher tellement je me suis senti enchanté. Moi qui avais appris comment laver au savon et repasser les vieilles feuilles déjà peintes pour les blanchir avant de les repeindre. En effet, une feuille d'aquarelle vierge est encore un objet rare à l'école des beaux-arts de Khartoum, lieu inspiré de mes années 70.
L'idée de l'exil, c'est de se trouver hors le territoire qu'on connaît. Moi, au Soudan, c'est-à-dire que mes parents n'ont pas été scolarisés. Ils appartiennent à la tradition culturelle, vraiment locale. Moi, j'étais éduqué à l'école moderne, qui est fondée par les Britanniques. À partir de 2 ans, j'ai commencé à bricoler un peu en anglais. J'ai étudié la géographie. Dans la géographie, en physique, on apprend que la Terre est ronde, alors que la version locale, qui, par exemple, on vous dit, le ciel, il y a 7 cieux. Après, il y a le trône de Allah, quoi. Et alors, pour passer, monter dans ces 7 cieux, il y a une littérature gigantesque dans la tradition musulmane. Mais nous, on était élevés dans la tradition européenne.
par exemple, je veux faire des aquarelles, mais j'ai pas de papier aquarelle parce que le papier aquarelle vient de Londres. Même les couleurs, tout vient de Londres. Et quelque part, on est exilé, quoi. On devait être à Londres. mais non, on est dans une petite ville dans l'ouest du Soudan ou à Khartoum. Mais on est au Soudan. Quelque part, quand je me suis trouvé à Lille, j'avais toute cette espèce de paradis de matériel. Je me sentais chez moi. Là, il y a deux jours, on est allé. Moi, je travaille maintenant avec les tissus imprimés. Donc, je vais chercher chaque fois des tissus imprimés, je récupère et tout. On est allé au marché Saint-Pierre ici. Et je me disais, mais le marché Saint-Pierre, mais moi, je peux vivre dans cette boutique. Si on me laisse, je peux rester ici. Et chaque jour, je vais dans un coin, je récupère des tissus, je travaille. Je n'ai pas besoin de sortir, d'aller voir des expos ou des musées ou rien de tout. Là où on a des choses dont on a besoin, ça devient chez soi. Avoir un chez soi, c'est avoir un endroit où on a tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire que rien ne nous manque. C'est pour ça que moi je parle de diaspora à l'envers, quoi. J'ai été une sorte d'être diasporisé quand j'étais au Soudan. Quand je me suis trouvé en France, ma diaspora, ma situation de diasporisé est finie, quoi. Je suis là, chez moi.
Au-delà de la dimension commerciale, diasporique, que constitue la chapelle Marx Dormois Pajol pour les Soudanais, c'est aussi un lieu de mémoire, dans la mesure où, en 2015 notamment, puis 2016-2017, c'est dans ce quartier que des jeunes étudiants, doctorants, ont été clochardisés pour vivre dans la rue ici.
Je fais des entretiens en arabe soudanais et le square Pajol, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans les entretiens. Et effectivement, donc les gens se souviennent très précisément du nombre de jours qui sont restés ici. Donc j'ai des calculs, des décomptes très précis. De moi, je suis restée 22 nuits, je suis restée 2 nuits, je suis restée 43 nuits, etc. Et alors, il y a aussi quelque chose qui a frappé les mémoires, c'est les opérations où les policiers venaient pour ce qu'on appelle el-rafa, le fait d'être ramassé, en fait, littéralement. Le ramassage, voilà, qui a été vécu, effectivement, de manière très violente par les gens. Voilà, et qu'on retrouve aussi beaucoup dans les récits, à la fois dans les entretiens, mais aussi maintenant dans les récits écrits que les Soudanais écrivent sur Paris. Quand il y a des descriptions de la chapelle, tout ça, il y a des évacuations forcées organisées par les pouvoirs publics ici.
وصلنا مدينة باريس العاشرة. لا أدري لماذا، ولكن هنالك عطل ما. اتصلت بالإخوة حتى يحددوا لنا مكان تجمعات المهاجرين السودانيين. كان من ضمنه الصديق حسن فرنسا.
Le train partit à 4h du matin et nous arrivâmes à Paris à 6h.
À 6h.
Je ne savais pas pourquoi, mais ici il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je téléphonais à des amis pour qu'ils nous décrivent l'endroit où se regroupaient les migrants soudanais.
Hassan La France ?
L'un d'entre eux était Hassan La France, qui avait souffert avec nous sur le chemin.
Nous oscillions entre le bien et le mal.
Nous oscillions entre le bien et le mal, en montant dans le métro jusqu'à ce qu'il s'arrête à 2h du matin. Puis, nous nous dirigeâmes vers une station de bus.
La pluie n'arrêtait pas de tomber.
La pluie n'arrêtait pas de tomber et le jour finissait.
Il n'y avait rien d'autre que le froid et la pluie.
Il n'y avait rien d'autre que le froid et la
pluie. Froid et la pluie.
La vie nous avait remplis d'amertume.
Il était difficile d'être perdu entre un rêve inachevé et une réalité insupportable.
Nous trouvâmes le camp que l'on nous avait décrit.
Nous trouvâmes le camp que l'on nous avait décrit et que l'on pensait plein de confort.
Une chose bien différente.
C'était en réalité une chose bien différente, pleine de sans-abri.
Qui faisait la queue dans les rues de Paris.
Ils occupaient une gigantesque place. Il émanait une odeur de crasse à vous boucher le nez. Ils étaient répartis sur le sol sous le pont de Jaurès.
Sans couverture.
Sans couverture. L'humidité les détruisait et la pluie leur tombait dessus. Ils se retournaient sans arrêt à cause de la faim et le regard des gens les assassinait. Les gens les regardaient des balcons de leur maison française ou bien de leur voiture. généreux de miséricorde, nous attendions des miettes d'espoir afin d'obtenir des papiers qui les maintiendraient, eux, les Français, dans la catégorie des humains, en nous laissant au rang inférieur, celui des animaux.
C'est à la fois la chapelle, on y a trouvé des gens qui nous ont aidés, qui nous ont orientés, mais on y a aussi trouvé la dégradation physique, matérielle, qui a été très difficile à vivre. Donc voilà, c'est toujours un peu des représentations très contradictoires, très ambiguës, entre des moments de solidarité et on s'est forgé des amitiés très fortes, et en même temps des moments de grande dureté, quoi, de matériel et de vie, quoi.
Vous dites qu'il y a des écrits, et c'est presque un genre littéraire maintenant, l'exil à Paris, l'exil en France.
En tout cas, c'est un thème d'écriture qui est de plus en plus saisi, dont des écrivains et des écrivaines soudanais et soudanaises se saisissent. Voilà, avec des motivations différentes pour dire des choses différentes. Mais oui, maintenant, moi, je suis pas parisienne d'origine, donc j'avais vaguement entendu parler de la chapelle, mais je connaissais pas bien la chapelle. Et en fait, la première fois où j'ai vraiment lu un texte sur la chapelle, c'était à travers le témoignage publié à Khartoum de Ghaleb Taïfour, El Bahar Watanan, donc la mer pour seule patrie, si on pouvait le traduire. Et voilà, et donc moi j'ai entendu parler de la chapelle et de tout ce qui se passait par un texte que j'ai acheté dans une librairie à Khartoum.
Le nombre de migrants dépassait les 1100 personnes. Il y avait de petites tentes que certaines associations distribuaient en priorité aux familles et aux personnes âgées.
Nous sommes restés des jours dans cette zone de Jaurès.
Accueillant de nombreux arrivants par la mer, depuis l'Égypte, la Libye, ou bien par les pays européens, soit par la volonté de choisir la France, ou bien soit parce que leur demande d'asile avait été rejetée dans d'autres pays européens. Certains avaient choisi la France pour la rapidité de ses procédures, la facilité de la langue, ses activités secondaires et la fourniture de services qui étaient meilleures pour les réfugiés et les migrants.
Nous sommes restés présents 22 jours dans ce camp.
22 jours dans ce camp.
Un matin,
Alors que nous dormions,
le bruit d'une énorme voiture nous réveilla.
Tout le monde se leva pour voir.
Il était évident que c'était le jour de la répartition dans les hébergements d'urgence, ou comme les Soudanais l'appellent,
Le ramassage.
C'était la police qui avait encerclé le camp avec une clôture et mettait aux gens un bracelet au poignet. Ceux qui sortaient de l'espace clôturé pour aller se soulager à l'extérieur, on les empêchait ensuite d'entrer à nouveau, perdant ainsi leur droit à la répartition dans les hébergements d'urgence.
C'est vrai que la chapelle, c'est un lieu de retrouvailles, de rencontres très fortes qui brassent vraiment différentes classes sociales. Après, il y a quand même des différences. Par exemple, la diaspora soudanaise qui est arrivée bien avant, plutôt à partir des années 80, 90, début des années 2000, elle, la chapelle, c'est vraiment trop marqué par les gens dans la rue et donc de stigmates qui est très fort, dont on essaye de s'éloigner.
Une forme de mépris de classe.
Un petit peu, mais c'est aussi plus complexe que ça, je pense. Alors, il y a des distinctions de classe sociale, mais il y a aussi peut-être des gens qui ont traversé des choses très dures, qui veulent pas. Voilà, ça leur rappelle aussi des mauvais souvenirs. Et il y a aussi des fois des choses qu'on entend dans les conversations de « Ah, mais lui, il est toujours à la chapelle, il n'avance pas dans sa vie », enfin voilà.
J'enseigne l'arabe au collège.
Ragda.
Je pense que je fais partie de rares professeurs soudanais qui enseignent dans le public.
Quand est-ce que vous arrivez en France et pourquoi ?
Septembre 2020, avec mon conjoint qui est français. On s'est marié en Arabie Saoudite et on a décidé de venir en France.
La majorité des Soudanais qui sont en France aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont quitté souvent le Darfour pour fuir la guerre, qui ont enduré la traversée du désert, qui ont enduré les sévices en Libye, la traversée de la mer Méditerranée. C'est quelque chose dont vous parlez avec eux ?
Quand mes amis, ceux qui ont traversé la mer, racontent leur histoire, pour moi, c'est inimaginable. Et je suis contente pour eux, parce qu'aujourd'hui, ceux dont je parle vivent bien en France. Ils réussissent des choses. Je pense à un ami en particulier, il est ingénieur aujourd'hui en France. Je trouve ça très fort de traverser tout ça et d'aujourd'hui réussir même sa vie, même dans les critères de la société française. La chanson qu'on va entendre s'appelle Adjabana et c'est le nom qu'on donne au café soudanais. C'est une chanson de l'Est du Soudan écrite par Adam Chash dans les années 60.
D'un pays comme le Soudan, on ne peut pas planifier le voyage, on ne peut pas décider vers où on va y aller. Tu pars et puis voilà, tu vas par la suite, en fait, le destin il t'amène. Ce que j'ai fait, moi, en partant du Soudan, sans un passeport, parce que je savais que le passeport ça ne sert à rien si je ne peux pas obtenir un visa, si je ne peux pas voyager de manière légale, comme ils le font beaucoup de citoyens du monde. Donc voilà. Juste, j'ai pris le chemin vers la Libye parce que c'est le seul pays où je peux y aller, sans un visa, sans un passeport. Pourquoi? Parce qu'il était dans un état chaotique, en fait. Et en arrivant en Libye, j'espérais que je vais pouvoir rester là-bas et commencer une nouvelle vie. Mais la situation en Libye, comme a été bien documenté ces dernières années, c'est une situation qui est très chaotique, en fait. Pour le même objectif de sauver ma vie, je continuais dans ce chemin. Et j'ai pris le bateau vers l'Italie. En arrivant en Italie, j'ai espéré que voilà, ce serait mon dernier voyage et mon dernière destination. Mais quand même, voilà, les conditions d'accueil n'étaient pas favorables pour que je reste en Italie. Donc voilà, le voyage continue. Je suis arrivé en France. Et c'est là où je peux en tout cas voilà, retrouver un certain accueil. Et qui m'a permis en tout cas de rester ici en France depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes études de la philosophie. Je m'intéressais à la France beaucoup, beaucoup. Et en arrivant ici, j'ai observé que l'image de France dont j'avais dans ma tête ne correspond pas à la réalité en fait, voilà, que je voyais. Je me suis dit, en fait, bah, certainement, il y a quelque chose que ça ne va pas. Soit les formations qui m'ont transformé a été fausse, ou bien il y a un changement qui est survenu au sein de cette société. Et notamment par le discours de l'extrême droite et le discours de tous ceux qui sont dans le camp de xénophobes et racisme. En partant du Soudan, j'ai parti du principe que je vais chez des gens qui me partagent des valeurs. Je m'identifie dans leur culture, dans leur système social et dans leur système politique. En espérant apprendre de ce système-là pour qu'un jour, ce système-là, je vais le réaliser dans le contexte de mon pays. Et je suis venu ici, ce n'est pas pour apprendre le discours de haine, le discours de xénophobe, mais plutôt d'approfondir les valeurs humaines, et notamment l'égalité, la fraternité, la liberté, etc. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il y a une sorte de déception que je me ressens de temps en temps, mais quand même, la particularité ici, c'est que c'est une société qui est très hétérogène. Pour ne pas stigmatiser en fait dans cette société, quand même, je pense qu'il y a des gens qui tiennent debout et défendent avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup de détermination ces valeurs et qui essayent en fait voilà, de l'appliquer au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Et moi, dans ma vie, hein, je suis positif. Je cherche toujours en fait voilà, la positivité.
Je m'appelle Hamad Jamal, je suis exilé soudanais en France depuis 2017. Je suis également le fondateur de Soudfeu Media. Il s'agit d'un média franco-soudanais qui est écrit dans le contexte de la révolution soudanaise pour l'objectif de visibiliser la voix de la jeunesse soudanaise qui s'est révoltée en 2019. Et je suis également réalisateur. J'ai réalisé récemment un film qui s'appelle « Giddam » ou « Jusqu'au bout » en français et qui retrace le parcours de la révolution soudanaise. Donc voilà, c'est un film qui parle d'exil, de migration, de la révolution, mais aussi de l'actualité, celle de la guerre et d'autres. Moi, j'ai 33 ans aujourd'hui et je me souviens quand j'ai quitté Soudan, j'avais 24 ans. À peine fini mes études universitaires, j'ai dû quitter le Soudan. Je faisais partie des étudiants, en fait, qui étaient très actifs à l'université. Et donc, voilà, on était ciblés par le régime. Et quand les menaces sont devenues très fortes, et au mesure que ça menace ma vie, mais aussi menace la vie et la stabilité, en fait, voilà, de ma famille, j'ai décidé de prendre le chemin d'exil.
Lorsque vous quittez le Soudan en 2017, vous êtes un opposant politique. Et avec vos camarades étudiants, vous êtes en train de construire les germes de la révolution qui va survenir un an après, en 2018, pour se concrétiser en 2019 avec le départ du tyran Omar al-Béchir.
Quand la révolution soudanaise a commencé, moi j'étais déjà exilé ici en France, malheureusement, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'assister à ce moment historique. Alors que j'ai travaillé, j'ai milité, j'ai fait beaucoup de choses pendant plusieurs années. Quand la révolution a éclaté, j'avais un sentiment de fierté qui était très fort. Pourquoi ? Parce que je voyais mes amis, mes camarades, ils étaient en première ligne.
Le 6 avril 2019, il y a un sit-in, des millions de personnes qui se rassemblent et qui ne partiront pas pour demander l'aide à l'armée et pour demander la chute du régime. Ce sit-in va rester quelques mois et va être évacué dans une très très grande violence le 3 juin 2019. C'est ce qu'on appelle le massacre du sit-in. Et là, il va y avoir plus de 200 morts à peu près. On ne sait pas exactement parce qu'il y a de nombreux disparus. Une très grande violence qui s'abat sur ces jeunes qui portaient ce mouvement révolutionnaire. Et surtout un block-out, enfin pas d'internet, hein, pendant presque un mois en fait. Donc avec la diaspora qui est un peu assommée de cette nouvelle, qui cherche à entrer en contact avec les gens qu'ils connaissent par tous les moyens.
Le régime d'Omar al-Béchir a fini. Il y a un gouvernement de transition qui s'est installé. Et ce qui a créé un sentiment d'inquiétude chez beaucoup de Soudanais, parce que c'est la première fois qu'on se retrouvait au pouvoir, alors que pendant des années, le régime de Frères musulmans était au pouvoir. Et on espérait que ce gouvernement-là soit à la hauteur et apporte du changement. Et alors qu'au à peine que ce gouvernement-là a pris sa responsabilité, il y a un coup d'état qui est survenu et qui a créé en fait un sentiment de colère chez beaucoup de Soudanais, notamment en fait le Soudanais de l'étranger, parce que on était prêts en fait à préparer nos valises, entrer au Soudan et contribuer à la construction du pays.
Ça, c'est ce qui a changé le destin du Soudan, à vrai dire.
Hinda Taher.
On espérait beaucoup, beaucoup de changements. On avait beaucoup d'espoir pour cette révolution qui a malheureusement mal terminé. Soudania joa weidani veredo. Soudani ajoa weidani veredo. Soudani wa thawra unwani veredo. Soudani kurdofani agarra u kherik. كتير برا بريدو سوداني كردفاني أغرى خيرك كتير برا بريدو سوداني فرساني كالأمراء والفول رامياني بريدو سوداني أجوا وجداني بريدو سوداني الثورة عنواني بريدو Soudani.
Thawra, ça veut dire la révolution. Donc on chantait la révolution et mon adresse, c'est la révolution. Ma domiciliation ou mon domicile, c'est la révolution. Et puis voilà, c'était par cette chanson, on a essayé de soutenir les manifestants, à dire allez-y jusqu'au bout de la manifestation et jusqu'au bout de la révolution. Là, on voyait tous les Soudanais de toutes leurs cultures, de toutes leurs origines, leurs ethnies. On était tous unis. Et en fait, on n'avait qu'une chose, c'est le changement.
on rêvait vraiment d'un un pays et un régime civil et démocratique. Et on avait tous cet espoir-là, réunis autour de cet espoir-là. Voilà, c'était inoubliable pour moi, ces moments-là.
Si la révolution avait pu triompher, vous seriez rentrée au Soudan ?
Ah oui, mais j'avais le rêve de retourner chanter. Chanter partout, dans toutes les grandes places, mais surtout là où il y avait le sitting, tous ces moments, ces endroits inoubliables où il s'est passé des choses historiques. On avait envie de retourner et chanter. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'espoir de retourner un jour, après la guerre, de revisiter tous les endroits, les régions qu'on a pu aider jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment un rêve. Et j'espère le réaliser un jour, très prochainement.
L'organisation à la chapelle collective fait que, voilà, pour envoyer un colis, pour envoyer de l'argent, ça a été très important pour la diaspora soudanaise à ce moment-là. Et au fur et à mesure du temps, il y a des formes de polarisation. La guerre continuant et durant, il y a des formes de confrontation, enfin de polarisation un peu politique entre des soutiens de l'armée nationale soudanaise et de l'autre, les groupes qui soutiennent davantage les RSF, les forces de soutien rapide. Mais la chapelle reste quand même un lieu où on essaye quand même de maintenir une forme de neutralité, de coexistence. Donc les gens se croisent, c'est tendu, mais voilà, on essaye de faire bonne figure pour ne pas envenimer les relations. Mais c'est présent, la guerre elle est présente tout le temps, au quotidien, ici et ailleurs, au sein de la diaspora. Voilà, mais voilà, encore une fois, la chapelle, c'est contradictoire, c'est ambigu, c'est à la fois effectivement des formes d'expression de la polarisation, et en même temps, c'est toujours là qu'on vient pour boire un thé, acheter à manger, ça reste quand même un lieu très important de sociabilité.
J'ai jamais coupé le pont avec le Soudan, mais je dirais même c'est le contraire. Quand on est loin de son pays, on a envie de donner plus que les autres qui sont à l'intérieur du pays. Et donc, par rapport aux des camarades qui sont ici, qui sont engagés, on essaie de refléter ce qui se passe au Soudan, de parler souvent au Soudan lors des activités. On organise nous-mêmes des activités et participe à des conférences qu'on m'appelle à droite à gauche. Et aussi, il y a cette solidarité entre Soudanais pour aider ceux qui sont restés là-bas. Oui, et essayer de changer les choses.
نحن في السودان نهوى أوطاننا وإن رحلنا بعيد نطرح خلالنا نطرح جلستنا في ضفاف فني السواقي تدور في سكون الليل في سكون الليل
Vous aimeriez retourner au Soudan ?
Abdelaziz Baraka Sakine.
J'aimerais rentrer, mais ça n'arrivera jamais. J'ai toujours été libre. Je suis un homme extrêmement libre, que ce soit dans ma nature ou dans mon écriture. Et ça, c'est très difficile à accepter pour les militaires ou des frères musulmans.
Au moment où la mobilisation a éclaté, il y a où encore l'espoir de retourner au Soudan ?
Hamad Gamal.
Il y a où encore l'espoir d'aller et retrouver et reprendre ma vie au Soudan, celle que j'ai laissée. Alors qu'aujourd'hui, dans ce contexte de destruction totale, dans ce contexte où il y a 25 millions de Soudanais parmi 45 millions qui sont partis à l'étranger, dans ce contexte où on parle de la famine, dans ce contexte où on parle de 250 000 personnes qui sont mortes, toute l'infrastructure et tout le service public sont détruits, je pense que quand même, moi, j'ai fait partie de beaucoup de Soudanais, en fait, qui sont en train de perdre l'espoir de rentrer au Soudan un jour. Toutefois, on essaye de travailler depuis l'étranger. Les Soudanais, ils ont besoin de notre soutien. Dans ce moment où ils sont abandonnés par la communauté internationale, où il n'y a personne qui parle le Soudan et le Soudanais, où il n'y a pas d'une organisation internationale qui vient en aide pour les personnes déplacées ou des victimes de la guerre. Et dans ce contexte où le Soudan est assiégé et isolé du monde entier. Donc voilà, le seul qui sont responsables et qui est encore actif aujourd'hui, c'est la diaspora soudanaise. Depuis l'exil, là où on reste debout, fort et uni, pour apporter du soutien dans ce moment difficile pour le Soudan et le Soudan.
Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que je fais partie de Shahada Arabi, le certificat arabe. Et parfois, en France, avec les Soudanais en général, je sens que je suis parfois illégitime de parler du Soudan ou de même de chanter parce que je ne suis pas assez soudanaise. Mais 2019, j'étais au Soudan à un moment et je suis très liée, je suis très attachée à mon pays. Et d'abord, je suis française de passeport, de nationalité. Mais est-ce que je suis française réellement? C'est ça la question. Mais il y a une expression pour les gens comme moi, les third culture, les enfants de la troisième culture. Donc on est rejeté de partout, on ne va jamais se retrouver quelque part. Mais pour moi, c'est le Soudan et je ne vais pas céder. Pour moi, c'est le Soudan, mes origines, je suis soudanaise. Je vais devenir française un jour. C'est une question de temps, on va dire ça comme ça. La chanson que vous allez entendre s'appelle « Ya Gharib », « Toi l'étranger » ou « Toi l'exilé ». C'est une chanson de Mamdouh Farid. Elle a été écrite au début des années 80.
Avec Hinda Taher, Hassan Moussa, Alice Franck, Ragda, Abdelaziz Baraka Sakine, Marie-Josée Tubiana, Camille Poncin, Lucie Revilla, Raleb Taifour, lu par Thierry Fournel. Musique originale, chant Ragda, guitare Thierry Fournel, prise de son Bruno Mourlan. Mixage, Manon Houssin. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Remerciements, Hubert Caporal. C'était Nouvelle Diaspora de France, Soudanais, l'exil impossible. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par Jean-Philippe Navarre.